l'étude à l'appel. Monsieur Olivier Bonduel. Madame Marie-France Martin-Bagarre a donné pouvoir à monsieur Olivier Bonduel. Monsieur Marc Lerouzic. Monsieur. Madame Christine Lamandé, pardon. Monsieur Jean-Yves de Ripper. Madame Janine Le Golvan a donné pouvoir à monsieur Lerouzic. Madame Françoise Le Pennec. Monsieur Charles Bétry. Marie-Yvonne Belleil. Monsieur Philippe Audot. Madame Catherine Isoard. Monsieur Patrick Lotaudé. Madame Christine Desjardins a donné pouvoir à Olivier Lepic. Monsieur Michel Durand. Madame Morgane Petit. Monsieur Gérard Marc-Albert. Madame Karine Deveat a donné pouvoir à Madame Morgane Petit. Monsieur Hervé Le Donnant a donné pouvoir à Monsieur Pascal Lejean. Madame Monique Thomas vient d'arriver. Madame Armelle Moreau a donné pouvoir à Nadine Roué. Monsieur Jean-Luc Servet a donné pouvoir à Monsieur Loïc Houdois. Nadine Roué, elle est présente. Pascal Lejean. Monsieur Loïc Houdois. Madame Sylvie Robineau. Monsieur Paul Chapelle. Olivier Lepic présent. Nous avons donc le quorum pour délibérer. Et comme d'habitude, Morgane, si tu l'acceptes, quand tu es présente, être la secrétaire de séance. Eh bien, tu es secrétaire de séance. On passe immédiatement à l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 27 septembre 2018. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des remarques sur ce compte rendu? Pas de remarques. Il est donc approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Compte rendu des décisions du maire, donc, que vous trouvez, elles sont numérotées de 97 à 113. Et j'imagine qu'il y a peut-être quelques questions sur ces décisions du maire. Monsieur de Ripper, des questions?
Une seule, justement, concernant la 113 et la modification éventuelle du PLU. Donc, est-ce que vous envisagez uniquement une modification ou une modification et une révision, ou les deux, ou
les deux à la fois? C'est l'objet de la consultation. En fait, on regarde si, compte tenu de l'ampleur des choses qu'on voudrait modifier, si on a besoin de faire une révision ou une modification, et c'est l'objet même de cette consultation.
Et le calendrier?
Ça va dépendre un petit peu de ce que va nous dire l'avocat. Si c'est une révision, c'est un peu plus...
Parce qu'avec une révision, il faut une enquête publique.
Avec une modification aussi, me semble-t-il.
Non, je crois pas.
Si.
C'est pas une simplifiée, c'est une de droit.
Ah, c'est pas une simplifiée.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Je vous remercie. On passe donc au rapport suivant. Et je passe la parole à Monsieur Lejean pour la concession de services publics de l'exploitation du casino de Carnac.
Donc, c'est effectivement d'envisager de le relancer, la nouvelle DSP qui arrive à échéance en juin 2020 pour le casino de Carnac. Et donc, il est demandé d'approuver le principe de l'exploitation du casino de Carnac dans le cadre d'une concession de service public, d'approuver le contenu des caractéristiques des prestations qui doit assurer le délégataire, telles qu'elles sont définies dans le rapport de l'exécutif annexé sur le choix du mode de gestion, et les caractéristiques des prestations, étant entendu qu'il appartiendra ultérieurement à l'exécutif d'en négocier les conditions précises conformément aux dispositions des articles L1411-4 et L1411-5 du Code général des collectivités territoriales, d'autoriser le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de concession de services publics. Vous avez un document qui a été annexé, puisque nous avons pris le cabinet expédiat pour nous assister dans cette démarche, qui vous reprend les grandes lignes de la DSP qui avait été signée en 2002. Avez-vous des questions?
Monsieur Dripper, allez-y.
Dans un article récent, le directeur du casino a déclaré que le dernier exercice était en perte. Est-ce confirmé?
Non, il a déclaré que les chiffres étaient en baisse, mais pas en perte.
Ah si, il a déclaré que c'était... J'ai l'article, 1,5% de perte, il a dit.
Écoutez, soit l'article a été mal rédigé. Non, mais je ne mets pas en doute l'article. Je ne dis pas le contraire. Pour moi, il n'y a pas de perte, effectivement, au casino de Carnac. Par contre, il y a eu une baisse, effectivement, puisque tout au long de l'été, si vous avez suivi les articles de presse, il y a eu beaucoup de gagnants, où ils ont communiqué dessus, et qui a fait qu'il y a une activité de PBJ en baisse.
Donc, à l'heure actuelle, le produit brut des jeux, on le connaît?
Alors, je vous rappelle que tous les casinos de France ont une année bilan qui commence au 1er novembre et se termine au 31 octobre, et que nous, on est sur une année civile. Donc, si vous voulez, moi, les chiffres que j'ai, je les regarde sur l'année civile par rapport à la comptabilité de la commune. Aujourd'hui, on n'a pas encore, même si l'exercice fiscal du casino est terminé, je n'ai pas encore eu le rapport du légataire ni les chiffres définitifs du casino sur son année fiscale.
Vous n'avez pas les chiffres définitifs, vous avez peut-être une idée.
Non, il y a une idée. On est sur un PBJ qui est un petit peu, effectivement, descendu. C'est pour ça que je suis surpris. Moi, je n'ai pas eu cette information. Donc, c'est pour ça que j'ai eu que l'information du PBJ qui a descendu. On est plutôt sur une augmentation au niveau de la restauration. Et plutôt un casino qui s'est plutôt bien comporté. Ouais.
En tout cas, il n'est pas en perte.
Donc, ça veut dire que le prélèvement sera à peu près équivalent à celui de l'exercice précédent.
Tout à fait.
On va donc lancer une procédure de délégation de service public, donc un appel de candidature. Il aura lieu à quelle époque ?
Alors, l'appel de candidature, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est une procédure relativement longue, aura lieu en fin 2019, pour une DSP, une prise de DSP en mois de juin 2020, d'accord. Puisque après, il faut passer à la commission des Jeux et ainsi de suite au ministère de l'Intérieur.
C'est très lourd et très encadré juridiquement.
En ce qui concerne les investissements, puisque dans le nouveau contrat, on a prévu un investissement obligatoire de 300 000 euros par an sur le bâtiment.
Dans le nouveau contrat ?
Oui.
Mais attendez, il n'y a pas de nouveau contrat.
Pour l'instant, il n'y a pas encore de
contrat. Dans la nouvelle.
Dans la proposition qui nous est faite. Voilà, de mettre un minimum d'investissement de 300, enfin c'est 350, enfin. Voilà, 300 000 euros par an sur le bâtiment pour maintenir l'entretien du bâtiment, tout à fait, au minimum, qui peut être étalé, il ne peut avoir rien une année et puis plus une autre année, hein, c'est en lycée. Hein.
Et donc, qu'en est-il, je repose ma question, qu'en est-il des investissements qui étaient liés au compte 471 et qui n'ont toujours pas été réalisés ? Et si on s'en tient aux déclarations du directeur du casino, dans les investissements qu'il prévoit, ils n'en font pas partie ?
Alors. Dans les investissements qui étaient prévus au compte 471, c'est des investissements en général qui étaient prévus. Je vous rappelle qu'ils en ont fait quand même. Si vous avez lu le rapport du délégataire, vous avez tous les chiffres, effectivement, des investissements qui ont été faits dans le casino depuis que ça a été repris par le nouveau exploitant. Je ne vais pas vous les citer. Vous avez, c'est 1 million 100 et quelques...
Concernant les machines à sous.
Concernant les machines. Ils vont démarrer des travaux au niveau du bâtiment. Si vous êtes passé devant, vous avez vu qu'il y a un panneau qui est affiché.
Concernant le restaurant, oui, d'ailleurs.
Concernant le bâtiment, le restaurant, pour leur activité, effectivement. Alors maintenant, on peut jouer sur des mots. Voilà. Et si c'est la bonne question, c'est sur le parking. Je suppose que vous voulez poser comme question.
Non, ce sont les investissements prévus étaient détaillés. La question que je pose, c'est est-ce qu'ils vont être réalisés ou pas ?
Ils vont être réalisés. Mais je rappelle bien que dans les 300 000 euros que je propose de mettre dedans, et si vous êtes allé un peu loin, il y a aussi pour l'investissement matériel, c'est pour justement se prévenir pour l'avenir. Ce n'est pas les investissements. Derrière, ils sont prêts à s'engager sur la réfection des parkings. Donc, ils ont envoyé un courrier la semaine dernière à la mairie, nous demandant s'il était possibilité de revoir, effectivement, toute la gestion des parkings devant le casino pour passer en épi. Il y a une partie qui est sur du domaine privé, une partie sur du domaine public, de savoir d'optimiser à ce niveau-là pour pouvoir faire les travaux. Et on a reçu un courrier la semaine dernière. Maintenant, ils attendent l'autorisation de pouvoir le faire.
Autre question, dans ce projet, il est... Il est prévu de racheter le bâtiment.
Non, il n'est pas prévu de racheter le bâtiment.
C'est la dernière page.
Non.
Expliquez-moi, monsieur Lejean, moi je suis prêt à comprendre.
Mais je vais m'expliquer, monsieur Delipper, vous inquiétez pas.
Je vous lis à la phrase. Par ailleurs, la ville envisage d'introduire dans le contrat la récupération de la propriété des murs du casino au terme du futur contrat.
Alors, il y a une possibilité d'effectivement de pouvoir faire lever cette option-là. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on n'est que dans l'ébauche pour envisager, et c'est pour ça qu'on a pris un cabinet. Donc, effectivement, ils nous ont soumis cette idée-là. On se pose la question si on a un intérêt ou pas à le reprendre, et c'est aussi l'une des raisons pourquoi j'ai voulu mettre un minimum d'investissement par an sur le bâtiment. C'est au cas où qu'on lève cette option-là et qu'on décide de prendre ce choix-là, qu'on ne se retrouve pas non plus avec un bâtiment vétuste derrière. Entre-temps, on a échangé, on a travaillé un peu sur le dossier. J'ai échangé avec la commune de Boulogne-sur-Mer, entre autres, qui ont un petit souci de DSP, où effectivement, ils sont... c'est pas la même entreprise derrière qui exploite. C'est le groupe Partouche, où ils ont un petit souci sur le bâtiment et qui s'aperçoivent qu'aujourd'hui, ils reprennent le bâtiment. Ils se sont retrouvés avec un bâtiment qui n'était plus du tout au niveau sécurité, qui était devenu obsolète. Donc, je me pose la question si nous, mairie, on a un intérêt et on est aussi capable de gérer ça.
D'accord, merci.
Puisque c'est quand même des bâtiments très spécifiques. Donc là, on a un échange plutôt avec les services techniques de la mairie pour savoir si on la mettra ou pas dans cette...
De toute façon, à ce stade, ce n'est qu'une autorisation d'engager et le contrat sera soumis évidemment au conseil municipal et dans les commissions, les dispositions seront également discutées. C'est assez complexe, la jurisprudence est assez évolutive, notamment pour ce qui concerne les locaux, puisqu'il y a eu, des arrêts du Conseil d'État assez récents, et donc c'est pour ça que, avant d'arriver à un contrat définitif qui sera soumis à l'approbation du Conseil municipal, et donc à un futur appel d'offres, on essaye de garder l'éventualité, enfin le spectre des possibilités le plus ouvertes possible à ce stade, en attendant que, enfin encore une fois, on a un cabinet qui nous conseille, qui est spécialisé dans ce genre de choses. C'est un revenu non négligeable pour la commune et donc il faut vraiment faire ça avec beaucoup d'attention et de professionnalisme parce que évidemment c'est une ressource relativement importante. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette autorisation de donner au maire à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la procédure de concession de services publics? Alors est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 5, suite à une remarque de M. De Ripper au dernier conseil municipal ou au conseil municipal d'avant, je crois, hein, sur l'autorisation de programme et de crédit de paiement qui convenait de modifier pour le bourg. C'est bien ça, M. Lejean?
Oui, c'est la PCP numéro 1. Donc, au mois de juillet, on a voté des modifications de budget pour réaliser ces travaux. Et effectivement, dans le BP, on avait ouvert une APCP et que les montants ne correspondaient pas. Donc, M. Duripper nous avait fait remarquer qu'il faudrait modifier l'APCP. On avait la possibilité soit de la modifier tout de suite ou d'attendre effectivement le BP 2019, puisque sur la partie 2018, de toute façon, on reste dans les clous. Donc, suivant la demande de M. Duripper, on a fait modifier l'APCP numéro 1 pour la faire passer effectivement à 2 474 000. Vous avez le détail. Dessus, il y a eu une évolution, et je vous ai donné tout le détail, ainsi que des aléas que j'ai prévus pour à une hauteur de 50 000 euros.
Monsieur Deripper.
Je crois d'ailleurs que dans le total, la casquette de l'office de tourisme n'est pas prévue, donc il faudra rajouter encore 200 000 euros.
Alors, c'était prévu.
On est dans la PCP numéro 1 telle qu'elle a été votée au mois de juillet. J'ai rajouté dedans, il y a eu un rajout sur différents frais d'études qui a été obligatoire de faire, plus, je répète bien, c'est pour ça qu'il y a un écart si vous reprenez les montants, 100 000 euros, plus 50 000 euros que j'ai mis en aléa, puisqu'effectivement on est sur une zone très compliquée, avec des aléas à cet endroit-là, des dénivelés et ainsi de suite, et que, dernier échange avec des ABF, j'ai préféré envisager cette solution-là.
Enfin, les aléas n'expliquent quand même pas qu'on soit passé d'une estimation initiale de 1 344 à un résultat final de 2
500 000. Monsieur De Ripper, on ne va pas refaire ce débat. On vous a expliqué exactement la dernière fois pourquoi, à cause des ABF. Et d'ailleurs, le dossier n'est pas tout à fait encore clos. Il y a encore des difficultés parce que c'est un endroit extrêmement compliqué. Les ABF nous ont encore écrit cette semaine. Donc oui, on a eu des difficultés. Oui, on nous a imposé un certain nombre de matériaux beaucoup plus chers. Encore une fois, on ne va pas refaire ce débat. Oui, effectivement, ça a augmenté, mais ce n'est pas du fait de la commune.
Je vous ferai remarquer que vous venez de me couper la parole, je n'avais pas terminé. Et donc, je voulais dire que ça nous faisait un dépassement de 93% de l'estimation initiale. On a exactement le même problème pour le couvert de la plage. On a exactement le même problème pour le restaurant scolaire. Et je trouve que c'est un peu se moquer des habitants de Carnac que de présenter des projets qui, à la base, ou une estimation qui est tout à fait raisonnable, pour ensuite arriver à un projet qui coûte le double.
Écoutez, Monsieur De Ripper, la critique est aisée, l'art est difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà géré des grands projets dans une commune. Il y a des aléas, particulièrement dans une commune compliquée comme Carnac. Je peux vous dire que les services techniques font le maximum pour estimer de manière assez précise les projets. Dans ces deux projets-là, il n'y a pas eu vraiment de dépassement qui soit lié à une mauvaise estimation. Il y a eu des dépassements liés à un certain nombre de demandes supplémentaires que nous offrent les ABF. Point. Monsieur Le Roudic.
Je pense qu'au départ, dès le départ, les cabinets d'études, qui sont quand même payés suffisamment assez cher, devraient mettre en...
Ils ne sont pas payés suffisamment assez cher, monsieur Le Roudic. Ils sont payés sur un pourcentage
qui... Tous les inconvénients, on va les connaître quand même.
Et par ailleurs, non mais... Quand l'ABF vous demande de mettre du granit, c'est pas le cabinet d'études qui pouvait deviner auparavant s'il avait proposé un autre matériau. Donc,
il devrait poser la question avant de commencer le dossier aux ABF. C'est la première chose.
Le problème, c'est que les ABF y répondent quand ils ont envie de répondre, et vous le savez très bien, et que donc, dans le cadre de ce projet, il y a un certain nombre d'obstacles qui sont venus en cours de réalisation, et encore une fois, il y en a d'autres. Après, effectivement, c'est facile de dire, après coup, on aurait dû, il y a qu'à, faut qu'on... On essaye de gérer au mieux. C'est un endroit stratégique pour Carnac. C'est la place de l'église. On a des énormes contraintes en termes urbanistiques et en termes de matériaux qui nous ont été largement imposées par les ABF. On a déjà eu ce débat. Ça ne me dérange pas, franchement, pour un lieu aussi emblématique et aussi important pour la commune, qu'on fasse quelque chose de beau. Et j'espère qu'on arrivera à un résultat beau. Et c'est, encore une fois, voilà, sous la contrainte des ABF.
Tout à fait. Mais bon, c'est bien de faire beau. Mais on passe du simple au double. On ne peut pas se positionner dès le départ, d'accord, sur un prix minoré, alors qu'on se termine avec un prix qui est doublé par la suite. La décision de départ n'est pas la même.
Encore une fois, M. Le Roudic, on ne va pas mener ce débat. Oui, c'est vrai, il y a eu, les coûts ont augmenté en cours d'affinement du projet. Mais je les assume, et encore une fois, une grande partie de ces coûts supplémentaires ne viennent pas de la commune. Le cabinet d'études met en œuvre ce qu'on lui demande de mettre en œuvre. Si ensuite l'ABF nous dit, ben non, ce matériau, je ne suis pas d'accord, je veux du granit, le cabinet d'études s'exécute et il nous donne un prix qui est celui du granit et qui est donc très largement supérieur à celui-là. Le projet, il a été évolutif, hein, c'est-à-dire que, bah, vous savez très bien, on va pas y passer deux heures. Quand on a fait ce projet, on a commencé par un estimatif qui était très en amont du projet. Ensuite, on a rencontré les Carnacois, on a rencontré le bureau d'études, on a fait évoluer le projet, il a évolué. Donc effectivement, par rapport à l'estimation initiale, ça a beaucoup augmenté. Mais encore une fois, ce à quoi je m'attache, c'est qu'on ait un projet et le meilleur possible pour la commune. Après, on peut refaire l'histoire. Oui, dans l'absolu, je suis d'accord avec vous, l'idéal eût été d'avoir une estimation exacte des premiers coûts. Encore une fois, je pense que M. Le Roudic, vous avez géré des projets importants dans la commune de Carnac. Il y en a aussi qui ont eu des dépassements et vous savez très bien comment ça se passe. Donc je conçois que c'est embêtant, mais malheureusement, quand on mène des projets dans des endroits complexes, ça arrive. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre cette modification d'autorisation de programme et de crédit? Est-ce qu'il y a des abstentions? Parfait. Et donc le reste est pour. Je vous remercie. Monsieur Lejean, on passe à la décision modificative sur le budget principal.
Donc c'est une décision modificative numéro 2 sur le budget principal de la commune, aussi bien en dépenses et en recettes de fonctionnement et en dépenses et en recettes d'investissement. Vous avez eu un petit nouveau document entre les mains qui a été posé sur la table par rapport au premier document que vous avez reçu par courrier. Il y a effectivement un delta qui est de 809,25 euros, qui est tout simplement fait à la demande du trésorier en retard pour inclure les intérêts du nouvel emprunt qui a remboursé l'ancien emprunt structuré, qui est sur le mois de décembre, puisque la date est au 1er décembre et qu'il n'avait pas effectivement tenu compte des intérêts qui allaient arriver sur le mois de décembre. Donc, voilà pour le document que vous avez trouvé sur votre table, la modification.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette décision modificative, Monsieur de Ripin?
Oui, les 500, le chapitre 43, ça correspond à quoi, Monsieur Le Grand?
Les 541 000, c'est ça?
Oui, s'il vous plaît.
Quand on a renégocié l'emprunt structuré, il y avait un IRA.
Exactement.
C'est l'IRA qui est pris en charge dans le nouvel emprunt, mais qu'il faut quand même passer une écriture.
Donc d'accord, on passe donc à une écriture d'ordre. Donc on
va, vous l'avez en dépenses et en recettes.
En dépenses et en recettes. Mais ce que je comprends pas, c'est que là, votre calcul par rapport au budget primitif, il devient faux, là. Non ? Parce que si vous prenez le budget primitif, le chapitre 43, il apparaît pas dans le budget primitif. On est d'accord ?
Je vous écoute.
Vous l'avez rajouté ?
Oui.
Donc, dans vos dépenses de fonctionnement du budget primitif, vous ne pouvez plus être à 14 835. Obligatoirement, vous devez rajouter vos 549 000 euros dans les
541
000 dans vos 14 835.
Ben, si on l'a en dépenses et en recettes, effectivement, automatiquement, on a une évolution du montant.
Oui, mais vos totaux deviennent faux, là.
Je ne vais pas vous dire s'ils viennent faux ou pas. Je vais poser la question
à Philippe. Je vous invite à reprendre votre budget primitif.
Oui.
Et en effet, vos 14 835 125 dans votre budget primitif apparaissent et sont bons. Seulement, comme vous rajoutez, dans le chapitre 43, vous rajoutez 549 000 euros qui n'apparaissaient pas dans le budget primitif, obligatoirement, votre total devient faux.
Les 14 835 000 ?
Exact. C'est faux. Non, je suis en train de vous dire que c'est votre première colonne qui est fausse. Le budget primitif, tel que vous le présentez là, est faux.
Le total de 14 835 125 06 qui correspond au budget primitif, on est bien d'accord. On a rajouté deux lignes, une à la hauteur de 549, une à la hauteur de 541, ils auraient dû augmenter d'autant. C'est ça que vous voulez dire ?
Ouais.
On va dire que voilà. Sur... Le total, je pense qu'il faudra
le corriger.
Tout à fait. Sur le résultat, ça ne changera rien. Sur le montant, effectivement, total, puisqu'il n'était pas prévu au départ, puisqu'on n'avait pas cette information-là, il vient augmenter automatiquement chaque budget.
Exact. C'est-à-dire que votre décision modificative, en fait, vous modifiez un budget primitif déjà modifié.
Alors, moi, je voudrais juste quand même que Philippe me réponde là-dessus, puisque je suis un peu surpris. Hein. Ça se fait automatiquement ? Non, mais
recalculez, vous allez voir.
Vous avez fait le recalcul à la main ?
Ouais.
D'accord. Bon, oui,
Excel, ça existe. Hein.
Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que je suis surpris que derrière, Yenner, je l'ai pas refait derrière, je n'ai pas vérifié. C'est moi, j'ai géré les 602 000 de modifications. Effectivement, je n'ai pas été regardé derrière. Alors, Philippe.
Je vous montrerai si vous voulez. Autre question, les 6 823 000 correspondent à quoi ?
Alors,
Dans l'investissement.
On va revenir, pas de problème. Hein. Ce sont donc 3 411 pour le remboursement de l'ancien emprunt structuré, 3 411 pour le nouvel emprunt structuré.
D'accord.
C'est pour ça que c'est... Voilà. Je sais bien que ça fait des montants importants, mais voilà. Et si vous voulez, c'est en fin de compte la grosse modification, la décision modificative numéro 2 vient des emprunts structurés puisqu'on est à l'échéance au 1er décembre. Donc là, vous n'avez que le BP qui était au départ.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette décision modificative ? Pas d'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité ? Je vous remercie. Rapport numéro 7, Monsieur Lejean, opposition de la prescription quadriennale au titre de la retenue de garantie pour la société AMG.
Oui, donc il y avait dans les comptes de la municipalité une retenue de garantie pour la société AMG qui était pour tout ce qui était serrurerie. Et donc, si vous voulez, on a fait réparer la médiathèque et donc on débloque effectivement la retenue de garantie puisque cette société-là, alors c'est pas elle qui a réparé puisqu'elle n'existe plus, donc on le fait débloquer.
Questions sur ce rapport ? Passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Toujours Monsieur Lejean, rapport numéro 8 sur une décision modificative, la première du budget du musée.
Du musée, tout à fait. Donc, c'est plus 3 970,77 euros en dépenses et en recettes de fonctionnement et la même somme en dépenses et en recettes d'investissement. Avez-vous des questions?
Oui, en fait, ça correspond à une recette d'investissement supplémentaire.
Alors, en termes de dépenses de fonctionnement, vous avez un entretien de bâtiment pour plus de 4 000 euros, une animation pour plus de 2 500, des divers à 3 500, et vous avez des charges de personnel à moins 6 000 euros. Vous avez des modifications à la demande du trésorier, puisqu'ils ont fait des modifications dans le plan comptable sur les amortissements par rapport aux subventions. Donc, c'est pour ça que vous vous retrouvez avec 4 000 euros effectivement, qui se retrouve en dépenses supplémentaires, on a amorti un peu plus vite une subvention, et vous avez un remboursement de FCTVA à 3 800 euros en plus. Pour les grandes lignes.
Et donc, si je comprends bien, on remonte de l'investissement au fonctionnement.
Pourquoi vous remontez de l'investissement?
Les 3 970, vous les retrouvez ensuite en fonctionnement.
Non, mais si la somme se retrouve identique, c'est deux choses différentes. Vous avez des amortissements de subventions sur une demande de trésorerie, donc à plus 4 000 euros, et vous avez effectivement la même chose en investissement. Et après, en dépenses, et là, vous le compensez par on a eu plus de remboursements de FCTVA. C'est une demande de la trésorerie de l'État sur les amortissements au niveau des subventions. Considérer qu'on ne les amortissait pas, c'est lui.
Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre cette décision modificative numéro 1 du budget du musée? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur Lejean, toujours, l'Office du tourisme, au reversement de la taxe de séjour 2019, qu'on vote chaque année.
Il est proposé au Conseil de renouveler le versement par anticipation de la taxe de séjour à la hauteur de 510 000 euros. Ce versement se fait en 4 trimestres, puisque c'est ce qu'on avait voté depuis l'année dernière au niveau trimestre, avant que c'était mensuel. Pour information, l'Office de tourisme devrait avoir un atterrissage sur sa taxe de séjour pour l'année 2018 en termes de fonctionnement. Ce n'est pas pour ça qu'il va recevoir les fonds tout en 2018, qui sera aux alentours de 550 000 euros, qui est en progression par rapport à l'année dernière. Ça n'a pas été clair, M. le Ripper.
Donc, la taxe de séjour 2018 sera de l'ordre de 550 000 euros.
Oui.
Qui seront reversés intégralement à la file de
taxes. Bien sûr.
D'accord.
Donc, il y a les 510 qu'on vote, c'est pour le déblocage en avance de la taxe de séjour 2019. Il y aura le complément dès qu'il sera reçu, que ça sera finalisé de 2018, qui sera versé en 2019 à l'OT. C'est deux lignes à part.
En 2016, la taxe de séjour était de l'ordre de 460 000.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va verser l'Office de tourisme 100 000 euros supplémentaires.
Si vous voulez, oui.
Les chiffres?
Non, mais c'est pas les chiffres que je comptais, c'est l'interprétation. Allez-y, oui, on va aller au bout de votre démarche.
Les 460 000 euros en 2016 étaient, à ces 460 000 euros, ça s'ajoutait une subvention du budget principal,
oui.
36 000 euros. Mmh. Qu'on a reconduit à peu près pour la même somme en 2017. Est-ce qu'on va continuer, alors que l'Office de tourisme touche 100 000 euros de plus, est-ce qu'on va continuer à subventionner?
Alors, dommage que vous n'étiez pas là cet après-midi, je vais juste vous expliquer. Depuis 2017, on a un Office de tourisme qui s'auto-finance avec sa taxe de séjour. Je vous rappelle, c'est un établissement public, industriel et commercial, un EPIC, on est bien d'accord, donc la taxe de séjour lui revient. Depuis 2015, c'est l'Office du tourisme qui s'occupe de la gestion de la taxe de séjour. Elle est reversée à la commune qui la reverse à l'Office du tourisme. On est bien d'accord? Sans coût supplémentaire. Ok. Aujourd'hui, les subventions qui sont données à l'Office du tourisme ne sont que des subventions pour l'animation. Depuis 2017, l'Office du tourisme n'a plus de subvention de fonctionnement, n'a que des subventions pour l'animation. Depuis 2017, l'Office du tourisme paye ses consommables au niveau de ses bâtiments et paye un loyer suite aux rénovations des bâtiments, ce qui n'était pas le cas avant. Et aujourd'hui, Toto s'auto-suffit. C'est clair? Et il y en a deux en Bretagne qui le font. Oui. Uniquement deux.
Ma question, c'est est-ce qu'on reconduit ou pas la subvention pour les animations?
Bien sûr. D'accord. Mais bien sûr, puisque
donc,
si
ça
vous
veut
voulez
dire que l'Office de tourisme va donc toucher
une subvention pour les animations.
100 000 euros de plus qu'en 2016.
Mais l'Office du tourisme.
Je ne comprends pas très bien la démarche de la question. L'Office du tourisme, grâce à une politique touristique et une fréquentation de la station qui est plutôt satisfaisante, va percevoir de la taxe de séjour supplémentaire. Mmh. Une ressource. Mmh. Une ressource qui n'est en plus pas payée par les Carnacois, puisqu'elle est en grande partie payée par les touristes. Où est le problème ? C'est-à-dire, dans tous les offices du tourisme se battent pour justement obtenir de la taxe de séjour. C'est plutôt satisfaisant d'avoir un des deux offices du tourisme de Bretagne qui est totalement autofinancé par sa propre taxe de séjour. Il va pouvoir investir dans la promotion de la station, il va pouvoir investir dans des animations, il va pouvoir investir dans la politique touristique, sans que ça coûte un euro au Carnacois. Je ne vois pas très bien où est le problème.
Mais il n'y a pas de problème à partir du moment où on arrête de financer à partir du budget principal.
Non, on finance. Je vais quand même vous rappeler. On a délégué la gestion des animations qu'on faisait à la commune, à l'Office du tourisme. On est bien d'accord ? Donc à partir de là, on lui donne aussi un budget pour le faire, puisque c'est la demande de la municipalité. Je vous rappelle que pour information, lorsqu'il a été fait l'étude pour la SPL au niveau d'ACTA, on a sorti des animations des offices du tourisme du transfert de compétences. D'accord ? Ce qui veut bien dire que les animations qui étaient faites par les offices du tourisme étaient à la demande des communes. Donc automatiquement, c'est logique qu'ils aient un budget.
Il
n'y a pas de problème. De toute façon, moi, derrière, si c'est pas l'office qui les fait, on va les faire par la mairie et ça aura le même coût. Derrière, je vous rappelle que tant qu'Olivier vous a dit qu'effectivement on a une TS, je voudrais bien genre remercier moi les services de l'office du tourisme qui ont su optimiser la taxe de séjour. Parce que c'est pas qu'il y en ait plus de personnes qui viennent nous voir, c'est qu'ils ont su l'optimiser.
Ça, monsieur Lejean, ça, vous ne le savez pas, ça.
Si, j'ai quand même quelques données, monsieur de Ripper. Si vous, vous ne le savez pas, peut-être, moi, j'ai quand même quelques données qui me permettent de le dire et de l'affirmer.
Écoutez, il faudra le démontrer, je fais partie.
Alors, je vous rappelle, les gens qui payent de la taxe, les gens qui payent de la taxe de séjour, monsieur de Ripper, c'est les gens qui viennent en séjour, pas ceux qui viennent pour la journée. Si c'est cela que vous parlez, je suis incapable de les comptabiliser.
Non, pas du tout. Ça peut être dû autant à une fréquentation supplémentaire qu'à une récupération meilleure de la taxe de séjour. Vous avez les deux possibilités. Il faut arriver à démontrer qu'il s'agit uniquement d'une meilleure récupération.
C'est simple. Je vais tout simplement vous expliquer une chose. C'est qu'aujourd'hui, le nombre de lits marchands n'a pas augmenté à Carnac. Donc, à un moment, c'est clair. Alors, effectivement, il y en avait certains qui n'étaient pas soumis à la taxe de séjour, qui le sont soumis maintenant. Le nombre de lits marchands n'a pas augmenté. C'est pas clair, c'est l'anticipation du versement de la taxe de séjour qu'il faut. Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair, Olivier ?
Ce qui n'est pas clair, c'est qu'on a toujours des budgets supplémentaires.
Ce n'est pas l'objet du rapport.
Attendez, je vous rappelle que...
C'est pas l'objet pas l'objet du rapport, là.
Ah ben dans ces cas-là, il fallait pas faire un EPIC. Olivier, il fallait pas faire un EPIC. Ah, mets ton micro. Olivier, dans ces cas-là, il ne fallait pas faire un EPIC. Si on a fait un établissement public, industriel et commercial, c'était justement pour que la taxe de séjour soit fléchée au fixe du tourisme, ce qui a été fait il y a 12 ans. On est d'accord ? Donc, à un moment maintenant, vous ne pouvez pas reprocher à l'Office du tourisme de Carnac d'être efficace dans la récupération de la taxe de séjour. Pour information, le Quiberon, c'est 400 000 euros pour à peu près un même nombre de nuitées.
Pascal, je pense que ça sert à rien. Donc, abstention, c'est ça ? Ok. J'imagine que les votes suivants sont pour. Je vous remercie. On passe au rapport suivant. Il s'agit donc de l'adhésion de la commune au service commun du réseau des bibliothèques et médiathèques du territoire. Et nous avons Madame Thomas qui est présente, qui va nous présenter ce rapport.
Donc, je voulais rappeler d'abord l'intérêt pour la mise en réseau, d'abord pour les usagers. Ça leur permettra l'accès en réseau, leur permettra de bénéficier d'un accès élargi à l'ensemble des offres du réseau, d'emprunter dans l'ensemble des établissements du réseau, d'accéder à des ressources numériques à partir du portail de réseau, de bénéficier d'animations numériques, d'utiliser le portail du réseau, accès au catalogue, réservation, alerte, et de bénéficier d'une application smartphone. Pour les communes, de communiquer sur le portail et présenter leurs collections, animations, événements, de bénéficier d'un travail collectif de la fourniture du SIGB, qui est un logiciel système intégré de gestion des bibliothèques et médiathèques. Donc, je rappelle également que dans le Conseil communautaire du 6 avril 2018, une délibération relative à la mise en réseau des médiathèques a été prise à l'unanimité, ainsi que la création du poste de coordinateur et que ce financement de ce poste serait supporté par les communes adhérentes au réseau. Je rappelle qu'il y en a 23, puisque la Trinité-sur-Mer, c'est la bibliothèque pour tous, adhérents au réseau à hauteur du montant calculé en fonction de leur population DGF. Donc la première étape, c'est à la mise en réseau informatique des bibliothèques et médiathèques et développement des ressources numériques. Donc le recrutement d'un coordinateur du réseau a donc été approuvé en Conseil communautaire le 6 avril 2018, ainsi que l'acquisition d'un progiciel et d'un portail web commun à l'ensemble des bibliothèques du réseau par la communauté de communes, qui prend également en charge la formation du logiciel, de l'hébergement et de la maintenance, aide de la communauté de communes à l'acquisition d'un matériel informatique à hauteur de 80%, dispositif sur un an pour chaque commune, qui comprend, suivant la demande de chacune, 2 PC, un public, un professionnel, une douchette, une imprimante et 2 tablettes. Mise en place d'une carte de lecteur unique, financée par la communauté de communes. Abonnement à des ressources numériques en ligne, financées par la communauté de communes. Acquisition par la communauté de communes d'une mallette numérique itinérante pour les animations culturelles. Et abonnement au service Elect pour favoriser des acquisitions concertées, financé également par la communauté de communes. Donc, le recrutement du coordinateur du réseau a été fait. Il s'agit de M. Christophe Porchet, et qui commence son activité le 3 décembre prochain. L'agent a été recruté et sera affecté au service commun réseau des bibliothèques médiathèques du territoire d'ACTA, conformément à la délibération du Conseil communautaire du 6 avril 2018 approuvant la création de ce poste. Bon, actuellement, on est en phase de l'acquisition d'un progiciel. L'analyse du marché est en cours de finalisation. Également, l'acquisition du matériel informatique. L'analyse du marché public est en cours. L'acquisition d'une mallette numérique, d'outils numériques, la même chose. Donc, des groupes de travail vont être créés en janvier 2019. Groupes de travail technique, pratique de catalogage, groupe de travail sur les modalités de fonctionnement du réseau. La migration des données vers le nouveau logiciel sera faite au cours de l'année 2019. Et la mise en place du portail, fin 2019, début 2020. Donc, le financement du poste revient pour la commune de Carnac. Donc, 3 632 francs 87 par an. Euros, pardon. Oh, je suis complètement... c'est vrai que je travaille à l'ancienne aussi. Vous avez vu un peu. Donc, 3 000... Tout va de pair. Hein. Comme moi.
Mais je veux bien prendre en France. Si
3 632,87 €. Voilà. Alors, bon... Ouais. Alors, je rappelle également que les membres des bibliothèques, pour tous les... ont été... cette présentation a été faite en réunion des DGS le 30 mai 2018, un point d'étape en réunion des DGS le 18 septembre 2018, et qu'il y a une participation des bibliothécaires à l'analyse des offres du marché SIGB en octobre dernier. et que la médiathèque départementale a approuvé, est venue nous voir la semaine dernière, la médiathèque départementale, ainsi que la DRAC, qui a trouvé que notre projet était très très bien et qui salue le travail et qui nous soutient fortement. Donc, vous n'avez qu'à voir, la participation de la DRAC est vraiment très importante. Donc les deux personnes sont venues la semaine dernière, on les a reçues la semaine dernière. Et c'est à leur demande qu'ils sont venus. Alors c'est tout ce que j'ai à dire. Et que la DRAC nous soutient fortement. Non, mais enfin, c'est pas très long quand même. Voilà.
Juste une petite précision, effectivement, quand nous avions voté à l'unanimité, j'avais simplement fait remarquer que j'étais contre un recrutement externe et à plein temps sur ce poste.
Bon,
première...
Je peux... Je continue.
Voilà. Bon. À titre personnel, donc, je ne voterai pas ce rapport, hein, pour des raisons que j'ai déjà exprimées, et Paul et moi, nous sommes abstenus en attendant le vote du conseil municipal de Carnac lors du dernier conseil communautaire, pour des raisons qui tiennent à la nature du service qui est mis en œuvre, qui existe déjà au sein de la médiathèque départementale, pour l'absence de visibilité du financement, qui repose très largement sur des subventions. On sait très bien que les subventions, ça s'arrête. Et par ailleurs, pour un service, encore une fois, que voilà, moi, les Carnacois ne m'ont jamais demandé. Et donc, effectivement, je pense que ACTA, d'ailleurs, ce n'est pas une compétence d'ACTA, devrait se concentrer sur ses compétences, je dirais, qu'elle détient, plutôt que d'aller faire de la dépense publique sur ce genre d'initiatives qui sont certes très intéressantes, mais encore une fois, qui existent au niveau départemental. Et au niveau financier, je pense que Pascal peut peut-être nous faire un petit point sur le futur, mais ça pose un problème. Je signale également que la commission des finances a donné un avis défavorable à l'unanimité, la commission vie citoyenne et éducation également, ainsi que le comité technique municipal réuni la semaine dernière.
Alors, au sujet du recrutement interne, nous avons essayé effectivement de trouver quelqu'un qui est actuellement dans une médiathèque. Nous n'avons pas trouvé la personne qui convenait, et en plus nous avons un poste de catégorie B. Donc la personne qu'on recrute, elle coûte moins cher et c'est une personne qui est très, très pointue en informatique. Elle nous a été recommandée par la médiathèque départementale. Donc, moi, je ne peux pas vous dire mieux. Moi, je le connais pas plus que ça. Mais c'était, et la DRAC, qui connaît la personne, nous a dit que nous avions fait un très bon choix. Et en plus, il nous coûte moins cher parce que ce n'est qu'une catégorie B. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Donc, et si on avait trouvé en interne, bien sûr qu'on aurait pris en interne, mais les compétences qu'il a, on ne les trouvait pas en interne. Voilà. Donc, c'est tout. Bon, de toute façon, je sais très bien que ce que je dis ne servira pas à grand-chose, mais enfin, je me permets de le dire quand même, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Mon intervention est terminée.
Sur l'aspect financier... Tant que sur le projet d'investissement qui est, comme vous le savez tous, un investissement, c'est sur une année, qui est pour 247 000 euros d'investissement pour ACTA, qui correspond au logiciel que nous a expliqué Monique, des différents équipements et des manettes itinérantes. Derrière, effectivement, comme l'a dit Monique, la DRAC le soutient à la hauteur de 123 500 euros. Dans le contrat de ruralité, à la hauteur de 50 000 euros. Le département, à la hauteur de 15 000 euros. L'Europe fédère à la hauteur de 9 100 euros et l'autofinancement qui est la quote-part qui est faite par les communes pour l'achat du matériel à la hauteur de 49 400 euros. Donc là, effectivement, on a un budget équilibré, pas de problème. Seule chose, moi, qui m'a posé question en termes juste, je ne parle pas du fond, je suis assez d'accord avec Monique, c'est plus ce que nous a présenté en chiffres, ne voulant pas revivre certaines expériences. Je soulève déjà un premier problème, c'est que les quotes-parts des communes sont calculées sur une population DGF, alors que l'intercommunalité, en général, c'était INSEE. Donc, ça veut dire que, effectivement, la population de Carnac s'est calculée sur une base de 10 394 habitants. Ça, c'est pour la quote-part du paiement du salarié, et qu'on nous a demandé de signer une convention sur 5 ans, qu'on nous a donné un budget de dépenses de fonctionnement qui est de 63 100 euros, pour la première année, qui effectivement derrière a pour la DRAC 12 500 euros de subvention, pour l'Europe 20 000 euros, on a un autofinancement de 30 600 euros, je suppose que c'est ACTA, puisque là j'ai pas fléché, puisqu'il vient en plus quand même du poste qui a été recruté. Le seul problème, c'est que là on a bien un financement sur la première année, quid des années à venir sur les 5 ans.
Donc j'ai un peu peur que si demain il n'y a plus de subventions pour le fonctionnement, je ne parle pas de l'investissement, mais je parle bien du fonctionnement, on se retrouve que ce soit ACTA, donc indirectement nous, ou soit les communes directement, qui doivent supporter l'ensemble du fonctionnement. Ce fonctionnement arriverait à une hauteur à peu près de 100 000 euros, et demain on en serait peut-être à 120 ou 130 000. Donc moi, pas de visibilité sur 5 ans, on demande de signer une convention à 5 ans financière, je suis un peu coincé.
Mais de toute façon, dans l'autofinancement, les communes n'ont pas grand-chose. Dans l'autofinancement ACTA, là, parce que la première année, mais après, chaque commune...
Mais justement, dans les recettes là, dont vous nous parlez, je rappelle des recettes de fonctionnement, monsieur Lejean. La DRAC et l'Europe, le financement, il est uniquement de... Les subventions, c'est 12 500 euros et 15 000 euros. Donc ça va quand même... Par rapport à la totalité, c'est-à-dire aux 101 000 euros, un autofinancement d'ACTA de 35 600 euros et le financement de la commune, des communes, il porte uniquement sur le coordinateur, il est de 38 200 euros. Donc je ne vois pas bien où est-ce que ça peut réellement déraper. Ça peut déraper uniquement sur les deux subventions, c'est tout.
Alors, vous avez raison, ça peut déraper uniquement sur les deux subventions. On n'a pas les mêmes chiffres, mais bon, je ne sais pas d'où vous les avez. Moi, j'ai un rapport d'ACTA. C'est pas grave, hein, 5 000 euros près, ils sont dans une case ou dans une autre, ça revient au même. C'est pas ça le problème. Demain, s'il n'y a plus de subventions, on est bien d'accord, c'est un peu plus de 30 000 euros en moins. Ouais. On est d'accord, hein, voilà. Vous avez peur?
Enfin, pour moi, un peu moins, pour vous, un peu plus.
Ouais, moi, c'est 32 500.
On va pas discuter. Voilà.
On va couper la poire en deux, on va dire 30 000 euros.
D'accord.
L'autofinancement de 30 600, jusqu'à quand ça sera un autofinancement d'ACTA? Puis je pose la question, déjà, est-ce que c'est un autofinancement d'ACTA? Parce que j'ai pas la... Si vous voulez, là, j'ai pas le détail, là. Donc, je me pose la question, et on est bien d'accord qu'on est sur un budget prévisionnel. On rajoute quand même le salarié. Monique a quand même expliqué différentes choses qui sont très bien, pas de problème. Moi, il faudra m'expliquer comment ça se fait. Une seule personne va pouvoir fonctionner quand il va être en congé payé, quand il va être absent. Derrière, s'il y a besoin de rapatrier les... Je ne sais pas, Monique, c'est les questions que je pose. Je n'ai pas eu les réponses. Je ne dis pas que tu n'as pas raison, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais si vous voulez, quand je vois qu'on m'amène un document, ou comme on dit, c'est une population DGF pour participer, qu'on me répète, et j'en prends quand même quasiment tous les 15 jours dans la figure, Carnac, c'est INSEE, c'est 3 points terminés. Bon. Que de l'autre côté... Je finis, monsieur de Ripper. Ouais. Vous avez la parole, j'ai le droit d'avoir la parole, merci. Que de l'autre côté, on me demande de signer une convention à 5 ans et qu'on me demande qu'on me présente un budget sur lequel il fonctionne une année, mais je n'ai pas de vision, qu'on ne m'a pas écrit que les subventions sont garanties au bout de 5 ans. Je suis désolé. C'est quand même de l'argent public, vous savez bien l'affirmer assez souvent, vous l'avez encore dit tout à l'heure. Ben, je suis désolé, je regarde. Et sachant qu'on a un service qui est fait par aujourd'hui le département.
La participation qui est demandée à la commune, elle est de moins de 4 000 euros quand même. Hein. Ouais, il faut remettre les choses.
Monsieur de Ripper, il y a aussi l'investissement, c'est aussi de l'argent de la communauté et donc des Carnacois. C'est pas, voilà, on est quand même dans des 300-400 000 euros pour un service dont on peut se poser la question de savoir s'il est vraiment nécessaire pour nos concitoyens.
Pardon, Olivier, je pense que on a voté le schéma culturel, il fallait dire non dès le départ. Moi, ce que je reproche du tout, c'est que tout le monde a dit oui au départ. On proposait quelque chose. Il fallait dire non au départ.
Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune information sur le financement. Aucune. Donc, on ne signe pas un chèque en blanc. Moi, je ne signe pas un chèque en blanc.
Il fallait dire non.
Eh ben, c'est ce que j'ai dit quand j'ai dit que je ne voulais pas un recrutement externe.
Le recrutement, c'est pas ça qui coûte cher. Arrête de parler.
Ben, c'est ce qu'on nous demande de financer, hein, le recrutement.
Bah, ça coûte rien.
Sur un interne, c'était pareil. Parce que la médiathèque qui cédait son agent est obligée de le remplacer.
Non, parce qu'au niveau du territoire, Monique, c'est pas du tout la même chose. C'est que l'emploi public était stable. C'était pas du tout la même chose.
Je connais pas bien le dossier puisque je ne suis pas ACTA, mais si je comprends bien le recrutement du salarié, c'est simplement 4 000 euros pour la commune de Carnac.
C'est aussi 300 à 400 000 euros d'investissement, monsieur Le Rosic. C'est aussi l'argent des Carnacois, ça.
Et quelles sont les retombées pour la commune de Carnac?
Exactement, quelles sont les retombées?
Peut-être que c'est intéressant.
Expliquez-nous, monsieur Le Rosic, qu'est-ce qui est intéressant? Vous allez pouvoir emprunter un livre à Camors et le ramener à Carnac. Tout ça, ça va nous coûter 400 000 euros. Excusez-moi, mais moi, je pense que c'est de l'argent public gaspillé.
Bon, écoutez, de toute façon, c'est pas la
Monsieur Deripa, excusez-moi, non mais monsieur le maire, dans ce cas-là, parce que tout a été, j'ai assisté à toutes les séances du conseil communautaire, tout a été voté à l'unanimité, sauf en effet à la dernière séance où vous êtes abstenu.
Une fois qu'on a eu les informations financières.
Mais, non mais d'accord, mais enfin, ouais. L'adhésion en elle-même, puisque là on parle d'adhésion, laquelle adhésion, je vous rappelle, on l'a déjà votée en conseil municipal, je vous rappelle.
Ok, mais... Monsieur Deripaire,
on est en train de revenir.
Attendez, laissez-moi terminer.
On entend de revenir sur ce qu'on a déjà voté.
Mais peu importe. On revient. Quand une décision est mauvaise et qu'on n'a pas les informations exhaustives pour se prononcer, on se prononce au moment où on nous. Pour l'office du tourisme, pour le tourisme, c'est exactement la même chose, monsieur Deripaire.
Ah, mais on est d'accord.
On aurait dû rester dedans et vous avez vu aujourd'hui combien ça coûte.
Mais on est tout.
Non, attendez.
Si je vous avais écouté, on faisait exactement
la même chose pour le tourisme et on se retrouvait exactement dans la même situation, c'est-à-dire avec une situation extrêmement déficitaire. Alors qu'au départ, tout le monde nous avait dit il fera beau, c'est à l'équilibre et il n'y aura pas de problème. Ça n'est pas la situation aujourd'hui.
Dès qu'on parle de mutualisation, vous n'êtes plus d'accord. En ce qui concerne. La gestion du droit des sols, c'est-à-dire une commission d'urbanisme intercommunale, vous n'êtes pas d'accord. En ce qui concerne l'office de tourisme intercommunal, vous n'êtes pas d'accord. En ce qui concerne la mutualisation des médiathèques,
citez-moi un exemple de mutualisation qui nous a fait économiser de l'argent.
Vous n'êtes jamais d'accord sur les mutualisations.
Répondez à ma question. Donnez-moi un exemple de mutualisation qui nous a fait.
Je reviens au problème de fond. Le problème de fond aujourd'hui, il s'agit de savoir si on est d'accord ou pas sur cette mutualisation que nous avons déjà acté ici en conseil municipal et avec lequel vous étiez d'accord.
La mutualisation.
Ensuite, vous êtes en train de nous expliquer que ça va coûter très très cher à la commune, ce qui est faux, parce que pour l'instant, ça coûte 3600 euros à la commune. Donc, c'est... Le moins qu'on puisse dire, pour une commune qui peut se permettre de mettre plus de 7 millions dans un boulevard de la plage, 3600 euros, c'est quand même pas grand-chose.
Donc je pense
qu'on peut le faire. Et ensuite, pour répondre à ce qui a été dit sur les investissements, ils sont quasiment tous financés par des subventions.
Mais c'est de l'argent public, monsieur
Deripaire. Mais c'est de l'argent public.
C'est trop facile.
On est d'accord, c'est de l'argent public.
Ok, ça y est, vous avez dit. Alors maintenant, je parle. C'est trop facile de dire quand c'est ACTA, ici, vous êtes surveillé le moindre euro. Quand c'est ACTA, c'est open bar. Eh bien, je suis désolé, c'est le même argent public. C'est l'impôt des Carnacois. Moi, je suis très attentif au fait que quand on s'engage dans quelque chose, répondez à ma question, qu'est-ce qui a fait économiser de l'argent aujourd'hui à ACTA dans la mutualisation? La mutualisation, c'est quand on fait ensemble mieux et moins cher. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait ensemble, pas mieux et beaucoup plus cher. Eh bien, ça ne m'intéresse pas. 1,6 million pour le tourisme. 1,6 million supplémentaire. Donc, il faut regarder. C'est trop facile de dire, ah bah, puis en plus, là, c'est l'opportunité. C'est trop facile de dire, ah bah oui, quand c'est les autres, c'est pas grave. Non, c'est aussi l'argent des Carnacois. Et notre devoir, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas des dérives. Lisez le rapport de la Cour régionale des comptes. Lisez le rapport de la Cour des comptes sur le fait intercommunal. Qu'est-ce qui s'est passé? La mutualisation, c'est un mythe, c'est un rêve. Elle n'est jamais au rendez-vous. Sauf qu'il y a très peu de gens qui osent le dire. Parce qu'en conseil communautaire, c'est facile de lever la main quand on est 56. Quand il y en a deux personnes qui ne votent pas, je peux vous dire que c'est beaucoup plus difficile, monsieur Deripaire. Et cette commune, elle a souffert de ça. Hein. À un moment, monsieur Lerouzic, vous vous souvenez très bien, quand il s'agit de se battre pour que Carnac soit représenté à la population DGF, c'est-à-dire à son vrai poids économique, là, il n'y a eu personne. Et aujourd'hui, on est trois représentants, alors qu'on paye 18% de la fiscalité de l'intercommunalité. Sous ma municipalité, ça n'arrivera pas, je peux vous le dire. Moi, je suis là pour défendre l'intérêt des Carnacois, et je ne vais pas, sous prétexte que cet impôt est prélevé par ACTA, laisser la dépense publique exposée. Ça, c'est hors de question, surtout pour des services, je suis désolé, qui ne sont pas fondamentaux pour nos concitoyens.
Ce que j'ai à dire dans ce dossier, c'est que l'état d'esprit est malsain. Et la mutualisation n'est pas au rendez-vous. Et ça, je trouve ça regrettable.
Pour ou contre la mutualisation?
Moi, je suis pour, oui.
Et même quand ça coûte beaucoup plus cher?
Non, mais si ça...
Non, mais même non, quand non, ça coûte non. beaucoup plus cher. Non, mais il faut, non, mais il faut le dire, non, parce non. que c'est le
il
cas.
Il faut rationaliser les choses, mais comme on est tous, de toute façon, en train de se tirer dans les pattes...
Mais pas du tout.
Je le dis entre guillemets.
Pas du tout.
C'est sûr que rien ne se construit
pas du tout.
Dans un bon esprit.
Pas du tout. Mais si... S'il s'agit de construire dans un bon esprit de la dépense publique supplémentaire, ce sera sans Carnac. Donnez-moi un exemple de mutualisation qui nous a fait économiser de l'argent. Allez-y, monsieur Lerouzic, donnez-moi un exemple, ACTA. Un seul. Vous n'êtes pas capable de m'en citer un seul. Ah, ça nous a fait économiser de l'argent, l'assainissement, la mutualisation? Prouvez-le-moi. prouvez-le moi.
Ça fonctionne.
J'ai pas dit, il y a plein de choses qui fonctionnent, mais qui coûtent beaucoup plus cher.
Coûte plus cher qu'avant?
Mais oui. Non. Oui, je pense que ça coûte beaucoup plus cher qu'avant.
Je ne crois pas.
Ah, on pourra en parler techniquement si vous voulez. Mais il suffit d'en lire leur. Mais lisez les rapports de la Cour régionale des comptes. Ils sont implacables. Ils sont implacables. Je vous propose de passer au vote. Alors, qui vote pour cette adhésion à la commune au service commun des réseaux bibliothèques médiathèques du territoire? Ok. Qui s'abstient? Et qui vote contre? Ok. Le rapport est donc refusé. On passe au rapport numéro 11, monsieur Marc Albert. Demande de subvention du conseil départemental pour les travaux de voirie hors agglomération.
Donc voilà, tous les ans, on demande une aide au conseil départemental pour les voiries qui sont hors agglomération. Donc on a droit à 20% sur un montant de 45 000 euros hors taxes. Donc ça fait 9 000 euros d'aide par an, voilà, maximum. Donc voilà, comme on a quelques voiries encore à faire en campagne suite aux travaux d'assainissement, donc on demande l'aide pour faire ces travaux-là.
Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 12, toujours monsieur Marc Albert, convention d'utilisation du domaine public maritime.
Donc tout le monde sait autour de la table qu'on on doit faire un arrangement par rapport au PPRL. Donc cette délibération sert justement à ça, à mettre à disposition le domaine public communal pour pouvoir faire les travaux qui commenceront début janvier. Et pour une durée de 30 ans, donc on pourra servir de cet endroit-là.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Marc Albert, toujours. Rapport numéro 13, acquisition d'une parcelle.
C'est une acquisition d'une parcelle, c'est le propriétaire qui nous a contacté en disant qu'il était frappé d'alignement et qu'il était prêt à donner la parcelle à la commune puisqu'il avait fait sa clôture à limite de propriété juste après la parcelle qu'il devait donner. Donc on a juste les frais de notaire à payer et ça nous permettra d'avoir une petite longueur qui ne nous permettra sûrement pas de faire encore une piste cyclable puisque ça s'arrête un petit peu plus loin. On ne peut pas faire une piste cyclable ainsi trop propre juste sur quelques centaines de mètres. Mais ça avance petit à petit, voilà.
Bon, j'imagine que tout le monde est d'accord. Unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 14, monsieur GMA.
Si ça vous dérange pas, je fais la 14 et la 15. C'est deux petites parcelles du domaine privé communal qui passent dans le domaine public communal. Il y en a une au rond-point de la gendarmerie qui fait 11 mètres carrés. Je pense que personne ne l'a vue, tellement elle est grande. Et puis il y en a une autre à Kerléarec qui était un endroit où il y a un carrefour et il y a une partie qui était du domaine privé communal qui passe au public communal. Celle-là, elle fait 144 mètres carrés. Mais bon, ça change de poche, mais ça appartient toujours à la commune. Voilà.
Parfait. Tout le monde est d'accord là aussi, unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Marc Albert, rapport après, numéro 16.
Après, si vous voulez, je vous fais la 16, 17 et 18 en même temps.
Non. On va pas exagérer quand même. Vous faites la 16, monsieur Marc Albert.
On fait la 16, donc c'est un dévoiement d'orage pour les WC de Port-Andreau, vu qu'on va faire une accessibilité handicapée. Et donc, il y a l'étude et le câblage qui est prévu là-dessus pour le prix de 3 766,80 €.
Pas de questions?
C'était prévu dans le boulevard de la plage, mais comme ce n'est pas le même endroit que le boulevard de la plage, juste à côté, ça a changé. Puis après, il y en a eu une autre délibération pour chaussée des Bernaches, donc c'était prévu avec, mais comme ils font par secteur et qu'ils étudient par secteur, c'est pour ça que c'est comme ça. Comment? C'était prévu dans le grand temps global. Ouais.
Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Marc Albert, toujours.
Donc voilà, c'est
la même chose pour 2018.
La 17, voilà, c'est pour l'effacement des réseaux. Donc ce sera l'étude et le câblage par Orange pour un montant de 2 869,69 €. Et donc là, c'est chaussée des Bernaches de l'autre côté, juste derrière l'hôtel des Rochers.
Pas de vote contre. Pas d'abstention, unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Marc Albert, rapport numéro 18.
C'est toujours au boulevard de la plage, dans le carrefour, c'est une convention de Morbihan Énergie pour le génie civil et la pose des fourreaux qui permettront après à France Télécom de faire passer leurs câbles de nouveau pour l'endroit du carrefour. Il y en a pour 14 160 € TTC. comme tout ce sujet, c'est pour ça que je ne propose pas tout à l'heure.
Ok, des questions? Pas de questions? Les votes contre? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Alors, dernier rapport pour M. Marc Albert, le syndicat départemental d'énergie du Morbihan.
Voilà, c'est les quatre bornes marché qui sont remises le long du boulevard de la plage et les 8 coffres de prise qui ont été mis. Et donc, ça fait pour un moment qu'il y a eu les études qui ont été faites et donc tout a été validé pour un montant de 117 120 euros. Et donc, toujours pareil, ça a été compris dans le budget du boulevard de la plage. Malheureusement, des fois, c'est saucissonné en rapport des études qu'ils font. Des fois, il y a des études qui vont plus vite et moins vite. Et donc, des fois, ils saucissonnent pour que l'entreprise puisse avancer comme c'est fait par tranche sur le chantier. Voilà.
Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre?
Comment?
Monsieur Bonduel, s'il vous plaît. Monsieur Bonduel.
Si vous voulez.
Il n'y avait pas eu de dérapage depuis quelques conseils municipaux.
Si vous voulez que je recommence.
Merci. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Oudoua, médiathèque de l'espace culturel Terraquet, élimination des documents.
Oui, donc il s'agit d'éliminer un certain nombre de documents qui sont soit abîmés, soit dont les informations sont obsolètes. Il s'agit de 8000 documents, donc 4000 livres, j'arrondis, 800 CD, à peu près 900 DVD, 1635 revues. Et pour ceux qui trouveraient que ce chiffre est assez élevé, je précise juste que cet exercice n'a pas été fait depuis 2 ans et demi.
Est-ce qu'il y a des questions?
Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces documents? Est-ce qu'ils sont envoyés à Bouc Émissaire ou...
Oui, pour tout ce qui concerne les ouvrages, effectivement, ils sont envoyés à Bouc Émissaire. Il n'y a que les CD et les DVD qui ne sont pas récupérés, mais bien souvent, quand on les sort du fond, c'est qu'ils sont abîmés et illisibles.
Inutilisables.
Donc, il n'y a pas de deuxième vie pour cela.
Merci.
C'est un partenariat gratuit?
Avec Bouc Émissaire? Oui. Oui, donc là, il s'agit de signer une nouvelle convention, donc projet éducatif de territoire baptisé Plan Mercredi. En fait, donc suite à l'arrêt des TAP, l'État a souhaité qu'il y ait une continuité éducative entre la semaine de 4 jours et le mercredi, considérant donc que maintenant le mercredi est devenu du périscolaire et non plus de l'extrascolaire. Par conséquent, il faut signer une nouvelle convention. Cette convention permettrait deux choses, un assouplissement des taux d'encadrement, c'est-à-dire moins d'animateurs par enfant, et une bonification de la prestation de service, c'est-à-dire, alors ça ne va pas rapporter énormément à la commune, mais c'est 46 centimes par heure et par enfant supplémentaire depuis 2016. C'est-à-dire que les enfants qui viendraient en plus par rapport à l'année référence 2016, on toucherait 46 centimes de plus par heure et par enfant.
La prestation de base, elle est de combien?
Elle est de 54 centimes.
Donc on serait à 1 euro.
On serait à 1 euro pour ces quelques enfants supplémentaires.
Pas d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Monsieur Oudoua, rapport suivant, convention d'objectifs et de financement de prestations de services, accueil, loisirs extrascolaires, cette fois-ci avec la CAF.
Donc là, oui, effectivement, c'est la convention qu'on signe avec la CAF. Et là, donc, elle concerne deux aspects. Le périscolaire, où là, en fait, la tarification se fait sur la base de la plage horaire d'ouverture avec un maximum de 9 heures. Et concernant l'extrascolaire, c'est sur la base du nombre d'heures de fréquentation réelle de l'enfant. Raison pour laquelle on doit signer deux conventions distinctes, parce qu'il y a ces petites différences.
Pas de questions? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Marc Albert, le rapport d'activité 2007 de Morbihan Énergie.
Donc, Les membres du conseil municipal sont invités à prendre acte de la communication et du rapport disponible sur le... Vous appuyez sur le petit « ici », d'accord, donc je plaisante. Et donc, vous aurez annexé au rapport du conseil municipal le document qui est assez épais, que vous pourrez lire tranquillement, de Morbihan Énergie.
Bon, il n'y a pas de vote, hein, on prend acte simplement de sa communication.
Vous avez appuyé ?
Je vous invite à le lire attentivement. Dernier rapport, Monsieur Chapelle, sur la mise en place d'une indemnité de départ volontaire au sein de la commune.
Voilà, il s'agit.
Il n'a pas appuyé. Il n'a pas appuyé.
Il s'agit d'une disposition réglementaire qui existe depuis 2009, qui n'a pas eu l'occasion d'être mise en œuvre sur la commune de Carnac, qui a été mise en œuvre sur certaines communes, mais pas chez nous. Et donc, il nous a jugé opportun de la mettre en œuvre. Alors, il y a d'abord des dispositions générales, hein, qui permettent donc à un agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique territoriale de bénéficier d'une indemnité de départ volontaire sous certaines conditions. Les dispositions générales prévoient donc en cas de restructuration de service, ce sont les motifs, départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise, départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel. Alors, on peut faire une petite analogie, même si elle est un peu imprudente, mais c'est dans le même esprit que la rupture conventionnelle qui existe un peu dans le privé. L'objectif, je pense, du législateur à l'époque était d'assurer une certaine fluidité dans le mouvement du personnel. Alors, nous avons souhaité, et on a regardé un peu ce qui se passait sur d'autres communes, de façon à encadrer évidemment cette indemnité. Alors, dans les dispositions particulières que l'on a souhaité retenir, on a une date, évidemment, une ancienneté qui est requise pour pouvoir bénéficier de ce système. On a évidemment un temps nécessaire minimum avant les droits de départ en retraite. Évidemment, il ne s'agit pas de permettre à un agent de partir en retraite avec une indemnité 6 mois avant son âge légal. Donc, on a fixé ce délai à 5 ans. Hein, c'est ce qui ressort un peu de ce qui se fait ailleurs. Il y a également un autre garde-fou, c'est-à-dire il ne s'agit pas non plus de permettre à un agent de toucher une indemnité de départ volontaire pour qu'il aille ensuite dans une autre commune ou une collectivité territoriale ou même la fonction publique en général. Pour avoir de nouveau des avantages. Donc là, il aurait l'obligation de restituer l'indemnité de départ volontaire qu'il aurait touchée dans le seul cadre qu'il prolonge sa carrière dans la fonction publique. Le troisième plafonnement qui nous concerne, c'est au niveau du montant de l'indemnité, hein, qui est plafonné à 24 mois de la rémunération brute de la dernière année, hein, c'est-à-dire en gros un mois par année d'ancienneté, plafonné à 2 ans. Alors, pour information, c'est passé en commission des finances et développement économique, où il y a eu un avis favorable, et c'est également un sujet qui a reçu un avis favorable du comité technique qui a eu lieu une dizaine de jours, ou 15 jours.
En fait, cette disposition a été initiée suite à une demande d'un agent, et comme on n'avait pas ce dispositif, on a réfléchi de savoir est-ce qu'on le mettait en place ou pas. Effectivement, ça nous paraît être quelque chose qui permet la mobilité et l'accomplissement de projets. Ça existe dans le privé, donc on s'est posé la question, hein, honnêtement, de le faire ou de ne pas le faire. Voilà. Mais on a d'abord regardé vraiment ce qui existait ailleurs, et puis ensuite, y compris dans des conventions collectives dans le privé. Et on a tenu à ce que ce soit extrêmement encadré pour qu'il n'y ait pas de dérive. Monsieur Deripa ?
Oui, d'ailleurs, dans la plupart des communes où ça a été mis en place, c'était pour régler un cas particulier. C'est-à-dire que c'est à la suite d'une demande et d'un cas particulier.
On s'est posé la question.
Ça a été mis en place. Tout à fait. C'est un décret de 2009 et ouais. Jusqu'ici, la commune s'en est passée.
Bah, en fait, c'est comme souvent, quand on n'est pas confronté à un problème, on n'est pas forcément. Enfin, à une demande, ce n'est pas vraiment un problème, on aurait pu aussi dire non. Effectivement, ça c'est né d'une demande.
Il y a un point qui est un petit peu gênant dans la formulation, c'est le départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel. Alors, un projet personnel, c'est quoi? C'est assez difficile.
C'est dans le texte, hein, sauf erreur.
Ben oui, c'est le texte. Je rappelle quand même que le texte peut ne pas être voté en l'état par le conseil municipal. Mmh. C'est-à-dire que c'est une disposition qu'on peut éventuellement faire disparaître.
De toute façon, ça ne peut être initié que par l'agent. Et encore une fois, c'est relativement encadré, que ce soit financièrement, même si effectivement le terme est vague. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dispositif? Pas d'autres questions? Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Il n'y a pas de questions diverses ou pas de questions orales, donc ce conseil municipal est clos. Je vous remercie. Passez tous un bon week-end.